Vous écoutez RTL.
Bonjour les curieux de France, de Navarre et d'ailleurs. Oui Thomas, parce que vous le savez, tous les curieux, mais absolument tous, hein, se retrouvent à 14h sur RTL et ça en fait du monde.
C'est vrai. Bonjour Anaïs, bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, dans cette émission, on aime les sagas musicales. Tiens, justement, tout à l'heure, on vous propose l'histoire de cette musique née sur une petite île des Caraïbes. Reggae, on vous fera découvrir l'origine du reggae et le destin de celui qui en est encore aujourd'hui l'icône, Bob Marley.
Et tout de suite dans la curiosité, comment les animaux s'adaptent face aux menaces de l'homme ?
Bonsoir. En dépit de ses 65 millions d'habitants,
la curiosité est un vilain défaut.
La France reste un véritable territoire sauvage, peuplé d'innombrables espèces animales, dont certaines se sont étonnamment adaptées à notre civilisation moderne.
Sur RTL. Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
Alors, il y a eu un rapport, le rapport Planète Vivante, qui est publié tous les deux ans par le WWF et qui met en avant des données sur la biodiversité et le rapport entre l'homme et son écosystème. Et alors, ça fait froid dans le dos, mais on va essayer de ne pas sombrer dans le désespoir ni dans le catastrophisme. Comme toujours avec vous, Marc Giraud, bonjour.
Bonjour, vous voulez dire qu'on sombre toujours dans le catastrophisme quand j'arrive?
Bah non, justement.
Au contraire,
d'accord, il
faut bien comprendre.
On
trouve des solutions.
Non, pas du tout, au contraire. Vous êtes naturaliste et avec vous, on va voir les ressources que la nature met en œuvre pour déjouer les pièges que lui tend l'homme. Elle est astucieuse en fait, la nature.
Bah heureusement, sinon elle serait plus là. Hein. Il y a eu des mutations pendant des millions d'années. Donc il y a ce qu'on appelle une plasticité des animaux et des plantes d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est assez darwinien. Hein. C'est-à-dire que il y a des parents. Et les enfants ne ressemblent pas à leurs parents. Donc il y a toujours une petite mutation ou un petit espoir pour l'avenir, ce qui fait que quand on laisse la nature tranquille, elle est résiliente. Et ça sera ça le message d'espoir, justement, contre les catastrophes, c'est que quand on fout la paix aux plantes, aux animaux et à la nature, eh bien, elle se débrouille très bien toute seule.
Et ça redémarre. Alors ce rapport Planète Vivante, il faut quand même rappeler ce qui nous dit entre 1970 et 2014. On assiste à quoi, Marc Giraud ?
Ah bah là c'est la catastrophe pour les animaux sauvages, c'est-à-dire qu'il y en a 60% de moins. Ouais. C'est quand même un chiffre énorme. Le WWF fait son rapport tous les deux ans, et tous les deux ans, c'est un peu pire, forcément. Hein. Ouais. Donc ça ne s'arrange pas. Il faut savoir que si on ne compte que les mammifères sauvages, ça ne représente que 4% de ce qu'il y a sur Terre. 36% c'est les humains, et 60% c'est ces animaux d'élevage pour sa nourriture. C'est-à-dire que la place des animaux sauvages est très 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 réduite. Il n'y en a déjà plus que 4%.
Et elle se réduit.
Et elle continue de se réduire comme si on n'avait pas encore assez de place.
Quand on parle de sixième extinction des espèces, pourquoi on dit ça ? Est-ce que c'est justement du catastrophisme ou est-ce que c'est un vrai risque ?
Ah bah, le problème, c'est que le problème est réel justement. Ouais. Ça, c'est les scientifiques qui disent ça. Il y a eu plusieurs extinctions. La plus célèbre, c'est celle des dinosaures. Mmh. Mais à chaque fois, ça s'est fait sur des milliers d'années. Et là, c'est sur à peine un siècle, quoi. Ça a vraiment commencé au 19e siècle. Enfin, depuis que l'humain a envahi la planète, ça se passe mal. Mais là, vraiment, depuis un moment, ça va très très vite. Autrement dit, c'est une extinction accélérée.
Et est-ce qu'il y a des animaux en voie d'apparition ?
Alors, à l'inverse, oui.
Oui, absolument.
Alors, positive. Les animaux en voie d'apparition.
Alors, il y en a deux sortes. Il y a ce qu'on appelle les espèces invasives. Déjà, c'est négatif. Ouais. Mais bon, par exemple, il y a des perruches à Bruxelles, à Londres. Il y en a de plus en plus à Paris et dans plein de villes de France. Donc, ça peut paraître sympa parce que c'est des petits oiseaux verts comme ça, tout à fait, on se croirait en Amazonie. Quoi. Ça paraît une richesse en plus, ces animaux qui apparaissent chez nous. En fait, c'est juste un déplacement. Et c'est une banalisation au niveau mondial, finalement. C'est-à-dire qu'on voit les mêmes partout. Genre les rats, les pigeons, les moineaux, on en voit partout.
Les plus résistants sont partout.
Les plus opportunistes, ceux qui s'adaptent à tout. Oui. Et il y a une autre sorte d'animaux en voie d'apparition, c'est ceux qui sont découverts par la science. C'est-à-dire qu'ils ont pas, ils viennent pas juste d'apparaître, mais on les connaissait pas. Et il y a un autre rapport du WWF, justement, là, qui est un petit peu plus joyeux, qui montre qu'on a découvert en 2017 150 espèces nouvelles, rien que dans la région du Mékong, ça veut dire plusieurs par semaine. Et il y a même un singe qu'on appelle Skywalker parce qu'il est très agile. Il y a une grenouille, enfin il y a des plantes, il y a des tas de trucs. Et ça, c'est découvert. Donc si on arrive à les protéger, c'est bien quand même.
Et puis le réchauffement climatique peut avoir d'étranges conséquences. Par exemple, On est dans le nord du Canada et voilà une nouvelle sorte d'ours. Alors, comment on l'appelle déjà ?
Les gros lards.
Alors, c'est les pizzlis,
c'est un mélange de grizzly et de polar bear, c'est-à-dire ours polaire. Ouais. Donc, ça s'appelle pizzi, mais gros lard, c'est plus
c'est
rigolo.
Marrant, oui, oui.
Donc, puisque les ours blancs, les ours polaires vont vers le sud parce qu'ils n'ont plus de banquise pour choper des phoques, donc ils se rattrapent sur des nichées d'oiseaux de mer, des choses comme ça. Donc, ils descendent, ils vont dans les décharges des humains.
Mmh.
Et au contraire, à cause du réchauffement, les ours bruns, les grizzlis montent. Donc, ils se croisent dans tous les sens du terme et ils s'hybrident.
Et on se croise. On se fait des câlins.
Et donc, il y a des ours hybrides.
Voilà.
Alors, c'est déjà arrivé, ça, dans l'histoire, de voir apparaître comme ça.
Oui, ils sont pas regardants, les animaux hybrides. Ça peut faire des nouvelles variétés. Oui.
Mais il y en avait dans un zoo en France, ce genre de. Ils avaient fait déjà des croisements, non ?
Alors, l'ours blanc et l'ours brun sont très, très proches génétiquement. L'ours blanc est un ours brun qui a évolué vers le froid, donc ça peut repartir dans l'autre sens finalement. C'est une adaptation finalement dans un sens. Mmh. Sauf que les Inuits ont le droit d'abattre tous les gros lards parce qu'ils ont un quota de chasse et les gros lards, ils n'en veulent pas.
Ça me fait rappeler l'émission qu'on a fait cette semaine sur les injures. On s'est offert 25 minutes d'injures.
Oui.
Si vous l'avez raté, vous pouvez la retrouver sur RTL.fr. On n'avait pas gros lards dans notre liste, mais elle est quand même mignonne. Allez, on continue de feuilleter notre atlas avec vous sur RTL. Ces animaux et comment ils s'adaptent aux facéties de la nature et à nos facéties, si j'ose dire. À tout de suite sur RTL.
J'ai entendu à la radio ce matin.
RTL.
Tout d'abord, une adaptation physique est un changement dans l'apparence de l'espèce afin d'améliorer ses chances de survie.
On a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
Bon, mais admettons, arrive une chauve-souris enragée.
La curiosité est un vilain défaut.
Faut encore qu'elle imite la voix d'un gars que je connais.
Jean-Marie Bigard et la chauve-souris enragée. On est avec notre naturaliste préféré dans la curiosité et sur RTL, puisqu'on vous prête chaque semaine à l'ami Stéphane Bern.
Je sévis aussi là-bas.
Marc Giraud sévit aussi là-bas. Tiens, un mot des chauves-souris, ce fantasme qu'elles s'accrochent dans nos cheveux, etc.
Non, c'est une blague. Une chauve-souris peut distinguer quelque chose, un obstacle plus fin qu'un cheveu, un seul cheveu. Alors, une chevelure, ça va.
Bon, donc on reste calme s'il y a une chauve-souris qui rentre dans une pièce. Bon, avec vous, on découvre comment les animaux, finalement, s'adapte à l'homme, s'adapte au réchauffement climatique. Vous nous parliez de ce gros lard, ce croisement entre l'ours polaire et le grizzly. Est-ce que ces animaux, on va employer le terme d'hybride, est-ce que ces animaux hybrides sont solides ? Ou est-ce qu'au contraire, ils sont plus faibles que les autres ?
Alors, avec les génétiques, il y a plein de surprises. Hein.
Ouais.
Il y en a qui peuvent avoir des malformations parce que ça s'enclenche mal entre les deux espèces. Genre des mâchoires trop différentes qui font qu'ils ont une drôle de dentition, des détails comme ça. Mais au contraire, ça peut renforcer leur bagage génétique puisqu'il sera beaucoup plus riche. Et face à une maladie, plus on est riche génétiquement, plus il y aura des individus dans la population qui vont aider. C'est ça le problème, par exemple, justement, de l'ours des Pyrénées, c'est qu'ils sont pas assez nombreux. Ils étaient tous de la même famille avant qu'on en réintroduise. Donc, une maladie, ils sont tous conformés pareil génétiquement. Ah. S'ils ont une faiblesse par rapport à tel ou tel microbe, ils y passent tous. Donc, le brassage, c'est pas si mal.
Et on peut encore les sauver, les ours polaires ? Ou c'est fini, on sait qu'ils vont s'éteindre
J'aimerais bien avoir une réponse définitive. Ils sont pas en voie de disparition au point qu'on croit. Ils sont en voie de disparition dans certains endroits, mais pas dans tous. Finalement, il y a encore des endroits qui tiennent. Le problème, c'est que le réchauffement s'accélère, ça va très très vite. Mais il y a d'autres animaux, comme les bœufs musqués, dont on parle jamais parce qu'ils sont moins connus. Eux, ils morflent aussi, parce que le réchauffement, ça gêne pas les espèces qui migrent vers le nord, mais arriver tout au fait au nord, les animaux peuvent pas aller plus loin. Donc c'est ceux-là qui sont les premières victimes.
Alors on voit qu'ils s'adaptent comme ils peuvent au réchauffement climatique, mais alors parfois l'homme décide tout seul de faire des trucs bizarres. Par exemple, on enlève les cornes des vaches. Comment ça se passe ? C'est quoi les cornages ? Et pourquoi on fait ça ?
Oui, ça c'est à cause de la stabulation libre, c'est-à-dire que toutes les vaches sont en même temps, et comme elles s'expriment et elles expriment le rapport de force à coups de corne, quand elles ont un espace réduit, les dominées ne peuvent pas fuir, donc les dominantes, ça les rend furieuses, donc elles donnent des coups de corne, et une corne, c'est quand même violent. Mmh. Donc, pendant longtemps, on a coupé les cornes, ce qui était abominable, avec des fers à 600 degrés, c'est abominable, c'est comme...
Ça leur fait mal ?
Ah, c'est très très mal, il y a de la moelle au milieu. Hein. Et il est apparu une mutation, justement, génétique de vaches sans cornes. Et on a, par sélection artificielle, reproduit ces vaches sans cornes. Et finalement, par exemple, il y a 10% des vaches limousines aujourd'hui qui n'ont plus de cornes. Moi, je trouve ça très triste. C'est plus pratique pour le fermier, mais les vaches sans cornes, c'est un peu triste quand même.
Et alors, ça a donné aussi des éléphants. Alors ça, c'est inouï. Des éléphants qui n'ont plus de défense.
Oui, dans tous les sens du terme. Oui, ça, c'est à cause du braconnage, parce qu'on tue à peu près 40 000 éléphants par an. Hein. C'est pour l'ivoire. Donc, les éléphants qui ont beaucoup d'ivoire se font flinguer, et ceux qui restent, ce sont ceux qui n'ont pas de défense. Il y a à peu près 2 à 4% des éléphants qui naissent avec la mutation « pas de défense ». Donc, ceux-là, ils ne sont pas flingués, donc ils transmettent leurs gènes sans défense, et finalement, il naît de plus en plus d'éléphants sans défense, justement.
Donc, on voit déjà apparaître ça.
Ah bah oui, en Asie, c'est presque 100% des femelles qui naissent sans défense du tout.
Bon, allez, on va aller dans l'océan maintenant, ouais. Marc Giraud, pour observer des requins et aussi vous informer sur la pêche, sur l'impact de la pêche massive sur l'évolution des poissons. À tout de suite.
RTL. Le braconnage illégal reste un fléau dans certains pays. Parfois, il peut même avoir des conséquences étonnantes.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
Depuis des décennies, les braconniers chassent les éléphants qui possèdent les plus belles défenses. Résultat, ce massacre massif de pachydermes a modifié le patrimoine génétique de l'espèce. Désormais, de nombreux éléphants naissent sans défense.
La curiosité est un vilain défaut.
Avec le naturaliste Marc Giraud, on fait le tour des stratégies de la nature qui s'adaptent à l'homme, en quelque sorte. Comment les animaux s'organisent justement pour déjouer les braconniers ou pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, pour tester l'impact de ce réchauffement climatique, justement, des chercheurs de l'université de Sydney ont imaginé des expériences sur les requins. Qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils ont découvert ?
Alors, ils ont plongé des œufs dans une eau à 23 degrés 6, c'est-à-dire 3 degrés de plus que l'eau habituelle de l'océan Indien où ils vivent. C'est-à-dire, c'est à peu près les prévisions qu'on a pour la fin du siècle, 3 degrés de plus. Si on ne fait rien, mais comme on ne fait rien, on les aura. Et donc, ils sont aperçus d'abord que il y a que 60% des embryons qui survivaient, donc ça veut dire que la chaleur, c'est plutôt néfaste aux requins, et que les survivants, bizarrement, ils sont devenus droitiers. C'est-à-dire qu'ils avaient une tendance pour tourner vers la droite, et alors ils se sont demandé pourquoi, évidemment, et cette asymétrie cérébrale, et ils pensent que c'est une économie des ressources cognitives, ça veut dire qu'ils automatisent leur fonction, leur tâche, et ce qui fait qu'il y a une partie qui ne fonctionne qu'en automatique pour ne pas dépenser trop d'énergie, donc ils sont un petit peu handicapés.
Bah voilà. C'est la charge mentale.
Voilà, donc les requins tournent en rond, quoi.
Non, en fait, c'est pas forcément mal pour eux. Droite. Oui, c'est ça. Ils ont tendance à être droitiers, mais en fait, c'est plutôt plus efficace contre les proies, finalement. Il y a toujours des paradoxes avec la nature, des effets secondaires qu'on n'a pas prévus. Et finalement, c'est pas pour les requins qu'on est inquiet, mais c'est peut-être plutôt pour leurs proies. Parce que comme ils vont mieux chasser avec cette espèce d'asymétrie, me demandez pas pourquoi, mais c'est plus efficace, c'est peut-être les proies qui vont morfler.
Et ça permettra aux requins de tenir, quoi. Et c'est un des animaux qui est là depuis le plus longtemps sur Terre, c'est ça?
Ah oui, ils étaient là bien avant les dinosaures. Et d'ailleurs, c'est des poissons cartilagineux. La sardine, par exemple, qui est un poisson osseux, est plus proche de nous génétiquement que du requin. Alors qu'on appelle tout ça des poissons, mais c'est très complexe.
Alors, la pêche massive, Marc Giraud, il faut en parler parce que on étudie ce que notre activité humaine depuis des décennies. Vous parliez d'une accélération depuis un siècle sur la disparition des espèces. On évalue avec vous ce que notre activité humaine a comme conséquence, comme impact sur les espèces. La pêche massive, qu'est-ce que ça provoque dans l'évolution de la taille des poissons? C'est très étonnant, ça.
Ah, bah alors la surpêche, déjà, contre la surpêche, on a fait des réglementations sur la taille des mailles de filet.
Oui.
Et donc, les gros poissons se font attraper et les petits passent entre les mailles. Mmh. Et c'est comme pour les éléphants, les petits ont transmis leurs gènes et finalement, les poissons sont plus petits. Et avec le réchauffement, pareil, le réchauffement, comme quand une eau est plus chaude, il y a moins d'oxygène, ils sont obligés de mieux développer leurs branchies et moins leur corps, et finalement, ils sont de plus en plus petits. Autre effet de la surpêche et du réchauffement, c'est l'invasion des méduses, ça c'est connu. Puisqu'on enlève tous les poissons, il y a une place gigantesque vide pour ceux qui mangent le plancton, qui sont les méduses, et là il y a des invasions de méduses à cause de nous.
Ce rapetissement, j'espère que c'est le bon terme, des espèces de poissons, ça veut dire que certaines disparaissent ? On va dire bye bye aux bars, par exemple.
Alors, ils sont mal barrés, les bars, effectivement. Oui. Il y a eu une étude de que choisir sur ce qu'on trouve dans les supermarchés. Effectivement, ils ont fait la sole, le bar et le cabillaud. Et là, c'est des 80% en moins. 86% des poissons qu'on trouve en supermarché proviennent d'une pêche non durable. Donc, c'est quand même un scandale, quoi. Sans le savoir, parce que nous, on pourrait s'en passer si on savait, mais on n'est même pas informé, quoi.
Et d'ailleurs, on va recevoir dans quelques jours, dans cette émission, l'animatrice de France 3, de Thalassa, Fanny Agostini, qui défend l'océan et qui a un discours qui est assez intéressant sur les espèces de poissons. Elle nous dira, et il faudra vraiment que vous nous écoutiez, comment on peut diversifier notre consommation de poissons pour mettre moins de pression justement sur le bar ou sur ces
espèces-là. Et se méfier de l'élevage, parce que l'élevage, un poisson d'élevage est nourri avec plusieurs kilos de chaque kilo de poisson d'élevage, ça demande plusieurs kilos de poisson sauvage. Donc c'est pas du tout la bonne solution.
C'est absurde.
Alors il y a aussi l'histoire des tortues marines. On dit que si le sable est chaud, il y aura plus de naissances de femelles. Alors on se dit, si ça se réchauffe tout ça, il y aura plus de filles. Est-ce que c'est la réalité?
Quand il n'y a plus que des filles, il n'y a plus de reproduction.
Ah, c'est un problème.
Ça devrait bien se passer de nous de temps en temps, mais bon. Alors, il y a des espèces qui s'en passent. Hein.
Oui, chez les pucerons, ça s'appelle la parthénogenèse. Donc elles se clonent entre femelles. Chez les tortues, c'est pas connu. Parce qu'en fait, dans le nid de la tortue, il y a plusieurs températures. Et quand c'est très chaud, ça fait des filles. Quand c'est très froid, ça fait des garçons. Sauf que quand ça se réchauffe, ça fait plus que des filles. Chez les crocodiles, c'est le contraire. Il n'y aura plus que des mâles.
Mais n'empêche qu'on pourrait avoir un mix tortue-crocodile.
Je vous les laisse. Allez, on va voir s'il y a quand même d'autres bonnes nouvelles à découvrir grâce à vous, Marc Giraud. Tiens, notamment pour parler des espèces qu'on réintroduit. Est-ce que la nature reprend ses droits rapidement? Réponse à venir sur RTL. Et puis, juste après...
Reggae,
il y aura du reggae.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Comment la nature déjoue les pièges qui lui sont tendus par l'homme? On en parle avec Marc Giraud. Réchauffement climatique, déforestation, surpêche. Les animaux changent, les animaux s'adaptent. Parlez-nous un peu, par exemple, des routes migratoires de certains oiseaux, comme la fauvette à tête noire. Elle a changé sa route.
Ah oui, c'est un fait qui est très connu maintenant. C'est-à-dire qu'avant, les fauvettes à tête noire allaient en Espagne, enfin vers le sud. Et elles ont perdu le sud, comme d'autres perdent le nord. C'est-à-dire que maintenant, elles vont à l'ouest, en Angleterre. Sans doute à cause d'une tempête. Il y a toujours des égarés, il y a toujours des mutants, il y a toujours des animaux qui ont de l'initiative et qui peuvent donner exemple. Et celles qui sont allées en Angleterre se sont aperçues qu'on nourrissait les oiseaux. Les Anglais sont très très sensibles à la nature. Il y a plein de mangeoires partout.
C'est la bouffe alors.
Oui, c'est la bouffe.
C'est un itinéraire gastronomique.
Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est dans leur patrimoine génétique. C'est-à-dire que maintenant, les fauvettes naissent avec non pas le sud en objectif de migration, mais l'Angleterre et ses mangeoires.
Alors, Marc Giraud, on termine sur une note positive. Qu'est-ce qui vous rend optimiste? Parce que c'est vrai qu'on voit que le réchauffement, malheureusement, on ne prend pas les décisions qu'il faut pour que ça s'inverse. Qu'est-ce qui vous rend malgré tout optimiste?
C'est un peu comme quelqu'un qui sait qu'il a une maladie pendant longtemps. Je disais, la nature va aller mal et je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Et puis maintenant, je commence à voir des initiatives positives partout. C'est-à-dire, ça vient du peuple, des gens, des initiatives personnelles. Faut pas compter sur les politiques et les industriels. Ils font le contraire de ce qu'il faut. Mais sur le terrain, il y a plein de gens qui replantent des arbres, qui protègent des espèces, qui ne demandent rien à personne, qui consacrent leur vie à ça. Et ça fait des petites plantations comme ça, un peu à droite, à gauche, des greffes de résilience un peu partout sur la planète.
Et dans ces cas-là, les animaux reviennent, la nature reprend ses droits assez vite.
Mais oui, il faut la laisser faire. La déprise agricole, par exemple, ça a permis le retour du loup, de plein d'animaux chez nous en France. Il y a plein de choses bien qui se font. Alors des fois, on leur donne un petit coup de pouce, on réintroduit des ours ou des lynx, mais n'empêche que ces grands animaux reviennent et que ça va être un spectacle. On pourrait gagner du pognon avec. C'est ça ce que je dis toujours, parce qu'on ne fonctionne prendre que par l'économique, le loup pourrait rapporter des sous. Moi, naturaliste, si je veux aller voir des loups, je vais en Espagne ou en Italie. J'espère que bientôt, j'irai les voir en France et qu'il y aura un écotourisme florissant pour voir notre richesse patrimoniale.
Et tous beaucoup, Marc.
Ces animaux, on les retrouve dans votre livre Big Five, le retour des grands animaux sauvages. Il est passionnant, votre livre. Merci beaucoup d'être passé dans le cabinet de curiosité.
Merci.
À bientôt.
Et à très vite sur RTL. Merci, Marc.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.